Bonjour. J'espère cette fois-ci, et sans doute la semaine prochaine, arriver à, je dis pas conclure, mais en tout cas, arriver à une pause dans cette longue série d'entretiens sur la famille. Je vous avais annoncé, les deux semaines précédentes, une sorte de gradation dans ce qu'on peut appeler les épreuves. De fait, j'avais commencé par parler dans les contradictions de la vie familiale, sur les épreuves, puis sur ce que j'appelais les malheurs. Et enfin, aujourd'hui, je voudrais que nous parlions des échecs. Cette distinction de mots est vraiment un peu artificielle, arbitraire, car ce que j'appelle aujourd'hui l'échec, c'est aussi un malheur et c'est une épreuve. Qu'est-ce que j'appelle échec ? C'est ce qui semble irréversible ou irréparable. Là aussi, je ne vais pas trop détailler les expériences personnelles de chacun, parce que chacune est unique, mais il y a des situations qui se répètent et qui, hélas, sont souvent trop fréquentes. Dans un couple, c'est la rupture irrévocable, celle qui se traduit par une séparation ou légalement par un divorce. Ce peut être aussi la mort, ou les graves accidents de ce genre. Pour la relation avec les enfants, eh bien, là aussi les cas sont infiniment variés. Ça va depuis des parents dans la relation des parents aux enfants. Les enfants qui se sont éloignés, qui ont complètement déçu l'espérance que les parents mettaient en eux, ou même qui ont purement et simplement gâché leur vie, soit en détruisant leur santé ou leur équilibre psychique, ou en gaspillant tous les dons reçus, soit des enfants qui se sont complètement éloignés, qui ont quasiment disparu, qui ont rompu avec la famille, qui ne veulent plus voir les parents. À l'inverse, ce peut être des enfants aux parents, des pères ou mères qui deviennent étrangers à leurs propres enfants, cela arrive aussi, soit en raison de leur état ou bien même de leur évolution. Il y a des pères et des mères qui, hélas, abandonnent leurs enfants. Je ne parle pas des petits, c'est une toute autre affaire, mais je pense à des cas où on voit un homme ou une femme partir à l'aventure ou bien s'écarter complètement de sa vie antérieure en lâchant tout et en laissant tomber ceux avec qui il était lié et dont il avait pris la responsabilité, fût-ce en leur donnant la vie. J'ai donc évoqué toute cette série de malheurs, d'épreuves, que j'appelle des échecs, parce que, à vue humaine, une fois que ceci est accompli, une fois que ceci est constaté, inscrit dans les faits, eh bien, cela paraît irréversible. Inutile de vous dire que pour chacune de ces évocations que j'ai faites, des cas que j'ai cités, il y aurait énormément à dire, et je sais bien qu'il faudrait, et peut-être il faudra-t-il que nous le fassions ensemble, reprendre l'une ou l'autre de ces situations plus longuement, plus patiemment, de façon plus détaillée. Je voudrais aujourd'hui les traiter et en parler de telle sorte que chacun puisse un peu se reconnaître et en tout cas, peut-être, donner et recevoir une petite parole d'espérance, un petit conseil de sagesse. Alors, je vais tâcher d'être concret. Si cela vous arrive, à vous aussi, 5 conseils, au moins. Premièrement, pensez aux autres d'abord. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, s'il s'agit de la rupture acquise d'un homme et d'une femme, rappelez-vous de la phrase de l'Évangile, « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent pour vous. » Et donc, penser aux autres, c'est, un, petit a, penser aux enfants d'abord. Dans une pareille brisure, Donnez-vous comme premier objectif de les aider à supporter cette épreuve et de leur donner le maximum de sécurité, la plus grande sécurité possible, affective, morale, matérielle, de les aider à franchir ce pas qui, de toute façon, va être pour eux extrêmement cruel, même s'ils sont capables de ne trop rien dire ou de manifester une certaine indifférence. Même s'ils prennent tantôt le parti de l'un, tantôt le parti de l'autre. Même s'ils sont donc eux-mêmes traversés par la querelle qui a amené la brisure de ce foyer, ou l'échec, ou la trahison même qui en a été la cause, ou la désillusion. Donc d'abord penser aux autres. Les enfants, le reste de la famille, et celui qui s'en va. Vous me direz que c'est très difficile, que c'est souvent impossible. Je n'en dis pas plus, je ne me sens pas le courage ou le droit, disons, d'en dire plus, sinon de vous rappeler ce que nous savons bien. Cette parole, ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'il fasse pour vous. Faites pour autrui ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. C'est l'attitude chrétienne. Dire que cela est aisé, que cela va de soi, nous savons bien, j'ai eu bien souvent l'occasion de le constater avec vous et d'y réfléchir, certainement pas. Mais si nous ne disions pas ça les uns et les autres, si nous le disions pas à nous-mêmes, nous ne serions pas des disciples de Jésus. Deuxième conseil, survivre. Oui, survivre au minimum. Ne pas vous laisser abattre, ne pas vous laisser détruire, ne pas vous laisser désarticuler, survivre, et à l'épreuve, aux épreuves qu'un échec de ce genre peut occasionner, aux destructions même qu'il entraîne, et bien plus, non seulement survivre, mais vivre. Vivre, c'est vouloir vivre et prendre les moyens de vivre. Prendre les moyens de vivre, c'est organiser sa vie, c'est raisonner, c'est penser aux choses de façon concrète, précise, pratique, savoir s'entourer de conseils. Si vous n'êtes pas capable de porter toute seule ou tout seul le poids de cet échec, eh bien faites-vous aider, cherchez jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui puisse non pas tout faire à votre place, mais vous aider si peu que ce soit pour mettre en place concrètement, pratiquement, les repères nécessaires à une vie qui, de toute façon, doit continuer, y compris en supportant cet échec et en en assumant les conséquences. Survivre, vivre. Toutes sortes de problèmes sont posés à travers ces mots. Ça va depuis l'organisation de la vie ordinaire, les relations, la manière dont on se déroule l'existence, les moyens financiers, le métier, que sais-je. Ce que je dis là vaut dans toutes les situations, y compris quand il s'agit des relations parents-enfants ou bien les relations entre le mari et la femme. Troisièmement, quand on entre dans un tel échec, quand on subit cet échec, je vous conseille de ne pas chercher tout de suite à vous dire à vous-même « Est-ce de ma faute ? C'est de sa faute ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ?» Pourquoi ? Non pas parce que cette recherche de la faute commise ou cette recherche de la responsabilité soit vaine ou inutile, mais parce que on ne peut le faire que quand on est en état de le faire. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est une règle très générale, un conseil qui vaut dans toutes sortes de circonstances. Il n'est pas très raisonnable, quand on est sous le coup d'une grave émotion, d'une impression, d'un choc ou d'un sentiment puissant qui vous emporte et qui vous prend tout entier, ce n'est pas le moment de faire cette sorte d'examen de conscience, de lumière à faire sur sa vie. Il faut bien sûr faire attention à ce qui vous apparaît dans ce moment-là, au besoin d'en prendre note pour soi-même, parce qu'il y a des moments où comme au détour d'un chemin, on s'aperçoit brusquement de quelque chose auquel on n'avait pas pensé, sur sa propre conduite, ou sur celle d'autrui, ou sur la manière dont on réagit. Mais ce n'est pas le moment de faire un examen complet et approfondi. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord avoir retrouvé sa sérénité et une relation, pour vous qui êtes croyant, au moins apaisée avec Dieu. Pouvoir se remettre sous son regard, sans trop lui faire de reproches, sans s'accabler soi-même, mais avec la vraie liberté des enfants de Dieu qui acceptent que le Seigneur nous révèle ce qu'il veut nous faire connaître de nous-mêmes, de notre vie et de la vie des autres. Donc ne pas tout de suite s'enfoncer dans cette recherche de la responsabilité ou de la culpabilité, mais au contraire se mettre face à Dieu courageusement et attendre que le moment soit venu pour tirer les leçons, tirer les conséquences et reconnaître les appels que Dieu, à travers même cet échec ou ces échecs, peut nous adresser désormais. Quatrièmement, demander à Dieu d'ouvrir l'avenir et s'en remettre à lui avec foi et avec espérance pour qu'il donne une lumière sur ce qui apparaît souvent comme un non-sens, une absurdité, une erreur, un malheur. On ne peut pas tout de suite se dire, voilà, si Dieu m'a envoyé ça, c'est parce qu'il voulait faire ceci ou faire cela, on n'en sait rien. Dieu donne la lumière quand il veut, mais il faut la lui demander. Et en lui demandant ainsi la lumière, c'est peut-être là où nous ne l'attendions pas qu'elle nous sera donnée. Peut-être y a-t-il un don de grâce inespéré, une capacité de pardon ou d'aimer que nous n'avions pas, et qui, dans cet échec, nous est donné comme de surcroît et de façon inattendue. En sorte que là où nous pensions qu'il y avait un échec radical, un désert, apparaît une fécondité, parfois même des fruits de sainteté que nous ne pouvions pas soupçonner ni anticiper. Enfin, cinquièmement, guérir la blessure reçue. Bien sûr, il faut arriver à apaiser la souffrance, il faut arriver à être patient pour que le temps fasse son œuvre, mais il faut aussi demander à Dieu de ne pas s'endurcir, de ne pas devenir dur, dur comme la pierre, vous savez, comme les gens qui autrefois, encore aujourd'hui, je ne sais pas, moi je pense au métier où on se fait des durions. Quand on a un métier manuel, eh bien, on a des cales aux mains pour protéger la peau. De la même façon, on dit que certains animaux secrètent leur carapace pour se protéger. Il ne faut pas trop se durcir. Il faut demander à Dieu qu'en même temps qu'on guérit la blessure, qu'on devient davantage capable de supporter le malheur et de faire face au malheur ou à l'échec, de garder un cœur humble et disponible, qui ne soit pas endurci, mais toujours capable d'aimer. À la semaine prochaine.